Très bien, je pensais hier, en fait, après notre séance du matin, l'enseignement du matin, la question qui était dans ma tête et à laquelle je n'avais pas vraiment proposé de réponse. Et je me disais, bon, ce n'était pas hyper pédagogique ça, Nico. C'était quand on parle de soif, de quoi avons-nous soif vraiment? Quel est l'objet de cette soif? Qu'est-ce qui peut rassasier précisément cette soif? C'est vrai qu'on a parlé de cette idée d'orienter des personnes vers la parole de Dieu. Est-ce que c'est juste le fait d'avoir accès à cette Bible, à entendre des mots? Est-ce que c'est ça qui nous rassasie? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il faut qu'on soit un peu plus précis? Et j'aimerais répondre à cette question avec vous ce matin. Mais avant, j'aimerais juste raconter une petite histoire. Et ça va poser le fondement pour vous parce que vous avez un peu de travail à faire dans quelques instants. Donc, c'est un souvenir de mon. En fait, quand j'étais au début de mes études universitaires, et je suis retourné aux îles où j'ai grandi, une petite île qui s'appelle Sainte-Croix, aux Caraïbes. Et il y avait mon frère qui restait, il était dans ses dernières années de lycée. Et dans mon absence, il est devenu un peu le prince de la maison, quoi, en fait. C'est lui qui gérait, il y avait un très très bon groupe de copains autour de lui. Et en fait, pendant mon absence, il a découvert tout un tas de trucs sur l'île que moi je connaissais pas. Des petits coins, des choses que j'avais jamais fait. Et un jour, il m'a dit, Nico, j'aimerais t'emmener quelque part, je vais te montrer quelque chose. Et donc, on va dans une plage que je connaissais très bien. En fait, on allait là tout le temps. Mais il m'a dit, il m'a montré un petit chemin que j'avais jamais vu, en fait, qui partait, au bout de la plage. La plage s'arrête, il y a un chemin qui monte dans une partie plus rocheuse. Et on peut suivre la côte pendant plusieurs kilomètres. Et là, on fait ça avec lui et quelques copains. On arrive à un endroit, il y a une espèce de piscine naturelle, en fait. Donc, un endroit où il y a le rocher, je peux dire ça, le rocher qui entoure la piscine. Il y a des grandes vagues de la mer qui arrivent comme ça, contre le rocher. Mais derrière, hop, il y a cette piscine qui est tout calme. Et c'était assez profond, en fait. Et on s'est plongé dedans, etc. Et je connaissais aussi cette piscine. Mais en fait, à un moment donné, lui, il me dit, ben, je vais te montrer quelque chose. Et là, on monte sur le rocher, du côté de la mer, là. Il plonge dans l'eau. Il descend, il descend, il descend, il descend. Et il disparaît. Et je vois plus mon frère. Et je comprends assez rapidement ce qu'il était en train de faire. En fait, justement, il y a de l'eau qui passait, il y avait un trou pour alimenter la piscine. Si on imagine un WC, c'était un peu comme ça. La piscine se remplissait et puis se vidait. Et lui, il passait par le trou en bas pour entrer dans la piscine. Un truc que j'aurais jamais imaginé dans ma vie. Surtout parce qu'il y a de grosses vagues qui arrivent, il fallait bien en fait choisir le moment où tu sautais, etc. Parce que bon voilà, c'était hyper compliqué. Et là, juste en regardant, j'avais le cœur qui battait comme ça. Et c'est mon petit frère, hein, je vous rappelle. Donc là, il y a un peu la fierté de grand frère qui commence à monter. Je dis, oh non, mince, je sais exactement ce qui va se passer quand il sort de l'eau. Il va me dire, Nico, à toi maintenant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lui, je le vois sortir dans la piscine. Voilà, il respire et tout. Et il me fait, maintenant à toi, Nicolas. Et là, j'avais pas de choix. Et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Le fait de voir mon petit frère faire cet exploit extraordinaire, ça m'a donné juste un courage pour faire ce qui était pour moi inimaginable. Bon, petit exercice pour vous. Là, je cherchais justement à alimenter un peu vos imaginations. Là, j'espère que vous avez pu imaginer une île, peut-être avec des palmiers, la mer, le soleil, des oiseaux. Et j'aimerais vous inviter à reproduire cette image à votre sauce, sur vos papiers là, vous allez dessiner votre île.
En grand?
Ben, comme vous voulez. Et puis, vous allez me montrer tout à l'heure.
Vous encore la
place? Ben, c'est à toi de décider ce que vous voulez faire avec votre île. D'accord? Vous écoutez avec une oreille, mais hein, vous allez aussi prendre du temps pour dessiner votre île. Et je vais vous suggérer quelques mots-clés hein, tout au long de l'enseignement là, que vous pouvez rajouter à vos fiches. Avec cette image en tête de cette île et cet exploit, je vais prier. Puis j'aimerais juste exposer, vous parler d'un seul verset en Jean chapitre 3. Seigneur, nous venons de chanter de ta grâce et aussi de la réalité de nos péchés. Nos péchés abondent, mais ta grâce surabonde. C'est une bonne nouvelle. Nous reconnaissons que c'est facile pour nous de chanter, de discuter de cette grâce, même de prêcher cette grâce aux autres. Mais ce n'est pas toujours facile pour nous de vraiment comprendre, de saisir le sens de cette grâce, tout ce que ça veut dire pour nous maintenant, aujourd'hui. En quoi est-ce que cette grâce qui surabonde, comment est-ce qu'elle rassasie ma soif? Comment est-ce que cette grâce me satisfait profondément? Comment justement est-ce que cette grâce me sauve de ce grand problème de péché? Et je prie, Seigneur, que ces quelques moments qu'on passe en méditant ce verset dans ta parole nous éclaircit encore plus, nous rappelle, ou peut-être pour certains, pour la première fois, nous fasse découvrir cette grâce, cette vérité. Au nom de Jésus. Amen. Donc notre texte, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Il y a quelques semaines, j'ai enseigné tout le chapitre 3 de Jean. Peut-être que vous l'avez remarqué pour ceux qui étaient là, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur verset 16, alors que c'est le verset probablement le plus connu de ce chapitre. Et peut-être que vous posiez la question, mais Nico, est-ce que tu as oublié quelque chose là? Il y avait vraiment un verset essentiel que tu as sauté. Et justement, je voulais consacrer tout le temps ce matin juste à ce seul verset que j'aimerais creuser tout en gardant en tête ce qu'on a vu sur le chapitre dans son ensemble et aussi ce qu'on voit dans les premiers chapitres de Jean comme contexte. Mais creuser ensemble ce verset hyper connu, mais parfois tellement connu qu'on oublie le sens et l'importance des vérités qui se trouvent là-dedans. Donc je vais juste lire chapitre 3, verset 16. Je vais suggérer quelques mots-clés. Et puis, on va explorer ça en plus de profondeur. Donc, Jean chapitre 3 et verset 16. Jésus vient de parler de Moïse élevé dans le désert comme le serpent. Il parle de sa propre mort à venir, sa crucifixion. Et puis, on voit ceci en verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je vais juste relire une deuxième fois. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et je vais me concentrer sur quatre verbes, même s'il y en a cinq dans le texte. Il y a un verbe qu'on va traiter en cours de route, mais il y a quatre verbes qui vont donner structure à notre temps ensemble. Le verbe aimer en lien avec le verbe donner et puis le verbe croire en lien avec le verbe avoir ou on peut même aussi mettre le mot « recevoir » ou « accueillir ». Voilà. Pour nos quatre verbes clés. Nous avons un inconvénient pour nous dans la découverte de ce passage, c'est que quand Jésus, qui était en discussion avec un gars qui s'appelle Nicodème, qui est un chef religieux, spécialiste de la loi, un peu comme on a vu avec Ruth hier. C'était un peu comme une discussion entre des thésards, des doctorants, des personnes qui maîtrisaient leur sujet. Et donc, un seul mot suffit pour évoquer toute une histoire, tout un contexte. Donc, il y a pas mal d'allusions, de références à des textes, des prophéties, des histoires de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la première grande partie de la Bible. Et entre Nicodème et Jésus, qui tous les deux sont des spécialistes de ces textes, là, en fait, il y a des choses que nous, qui ne sont pas toujours des spécialistes, on peut rater. De l'info qui nous manque, en fait, qui fait qu'on peut avoir du mal à comprendre quels sont les liens entre les différents mots. Donc là, j'aimerais suggérer que aimer, ce lien entre aimer et donner, Jésus va nous donner plus de sens, il va expliquer ce lien pour nous dans un contexte de Nouveau Testament, plus tard dans le livre de Jean, on va regarder ça dans quelques instants. Mais je pense qu'il a aussi en tête, il va faire allusion à une situation, et à des histoires de l'Ancien Testament, où il y avait un autre contexte pour cette relation. Dans l'Ancien Testament, ce lien entre aimer et donner, un Dieu qui aime et qui donne, c'était aussi présent. Mais ce qui est frappant, c'est que on voit dans l'Ancien Testament que ce Dieu qui aime son peuple, ce Dieu qui appelle même son peuple son fils, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il donne? Eh bien, il donne une vie dans le désert. Ça, c'est quand même intéressant à noter. Ce Dieu qui aime son peuple, qui délivre son peuple de l'esclavage en Égypte, il passe par le, en fait, traverse la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il donne? Quelle est l'expression de sa grâce et de son amour pour son peuple? Eh bien, il les amène dans le désert. Et je ne sais pas comment vous réagissez à cette idée-là. Moi, si mon papa me disait, Nico, je t'aime tellement que je t'amène en vacances dans le désert. On va passer 2 semaines, on va passer 2 mois, on va passer 2 ans, on va passer 20 ans, on va passer 40 ans dans le désert pour que tu comprennes à quel point je t'aime. Moi, j'ai envie de trouver un autre papa. Mais les amis, l'histoire de l'Ancien Testament, c'est au moins en partie ça. Un Dieu qui se révèle déjà comme un papa, qui aime et qui prend soin et qui éduque son peuple comme son enfant, comme son fils. Il fait preuve d'amour en les orientant, les dirigeant dans le désert. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles à un texte qui va nous donner un aperçu plus clair de ça. Un texte à connaître dans l'Ancien Testament, c'est le chapitre 8 du livre de Deutéronome, qui, en un seul chapitre, c'est Moïse, en fait, qui parle ici à la fin de sa vie, c'est juste avant le moment où le peuple va entrer dans la terre promise, et Moïse raconte l'histoire d'Israël, ici en Deutéronome. Et en chapitre 8, c'est assez impressionnant, parce que là, on a une petite synthèse. En un seul chapitre, on a un aperçu du programme de Dieu, ce Père, pour son peuple bien-aimé. Donc, je vais prendre quelques instants pour le lire. C'est quand même un gros texte, mais comme on a juste un seul verset en Jean à traiter, je me donne un peu plus de liberté. Deutéronome 8, et je commence avec le verset 1. Et là, les amis, devant vous, pour la première fois dans ma vie. C'est les lunettes de ma maman. Parce que j'ai pas encore osé investir. mais j'arrive pas à lire en fait. Deutéronome chapitre 8. Et c'est Moïse qui nous raconte la parole de Dieu. Donc Dieu parle à travers sa bouche et il dit ceci. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre. De devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi, là il parle à tout ce peuple comme une seule personne, un enfant, un fils. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier. C'est une autre manière de parler de ce qu'on a vu en Jean chapitre 3 il y a quelques semaines, cette idée de se rappeler de notre petitesse. Vous savez, vous vous souvenez de ça? La petite porte, on est trop grand pour passer. S'humilier, c'est se souvenir du fait qu'on est vraiment petit. Et c'est ce qui est nécessaire pour vivre dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il voulait. Il voulait t'humilier, vous rappeler de votre petitesse et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. On revient une deuxième fois à cette notion de commandement. Il t'a humilié. Donc ça fait partie du programme de Dieu, que vous sachiez à quel point vous êtes petit et vous avez besoin de lui. Il t'a fait connaître la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son enfant. Tu respecteras les commandements de l'Éternel, troisième fois, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer, où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11, « Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, quatrième fois, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer. Attention ! Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir. Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir. Et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants ou des serpents venimeux et des scorpions dans des endroits arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier. Afin que tu te souviennes que tu es petit et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres. En prêtant serment. Verset 19, bientôt fini. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous. Parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel, votre Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais juste prier avant d'aller plus loin. C'est un texte extraordinaire qu'on vient de voir là, Seigneur, qui nous donne un aperçu de ton cœur, de papa, qui nous aide à comprendre la nature du salut que tu nous proposes, la réalité du péché d'un côté, mais de l'autre, la réalité de ta grâce, ton désir de nous faire du bien, de nous bénir, de pourvoir à tous nos besoins, de satisfaire notre soif. Je te demande, Seigneur, de nous aider à saisir aujourd'hui cette grâce, à comprendre de nouveau à quel point on a besoin d'elle aujourd'hui, à quel point on est encore des petits, des enfants qui vivent dans la dépendance d'un grand Père bienveillant, un Père de grâce, celui qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils unique. C'est en son nom que je prie. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, ce qu'on voit, c'est aimer, c'est donner la vie dans le désert. Ça, c'est difficile pour nous à comprendre parce que la vie dans le désert implique une certaine souffrance. Et nous avons tendance à tirer des conclusions de notre situation de souffrance quand on souffre, quand ça va mal. Quand les choses ne s'arrangent pas comme on veut, la conclusion qui arrive le plus naturellement dans notre esprit, c'est que Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a oublié. Il ne prend pas soin de moi. Peut-être, si je continue à réfléchir comme ça et à nourrir ce genre de réflexion, il ne m'aime pas. Regarde ma situation, regarde ma souffrance. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, dans le désert. On peut arriver à la conclusion que peut-être tout simplement Dieu n'existe pas. Où sont toutes ces belles promesses? Où est cette terre promise? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mais ce que j'espère que vous avez entendu dans ce chapitre extraordinaire, chapitre 8 de Deutéronome, c'est le cœur du Père. Est-ce que vous avez vu le mot-clé qui nous donne un aperçu de ce qui se passe dans le désert pour les enfants de Dieu? C'était quoi le mot-clé, à votre avis? Quelqu'un l'a repéré? Qu'est-ce qu'il fait avec eux? À quoi sert ces années dans le désert? Ah, Nathalie!
À les humilier.
À les humilier. Exactement. Et il y a un autre mot qui s'associe à ça.
Mettre à l'épreuve
afin de les éduquer. Tout ça, c'est associé. C'est exactement ça. C'est afin de les éduquer comme un bon papa. Et la mise à l'épreuve, c'est ce qu'on vit à l'école. En fait, si l'école ne fait que me... Vous dites caresser dans le sens du poil, un truc comme ça. Que renforcer ce que je pense déjà, aller dans mon sens, je ne grandis pas, je ne change pas. Alors que le Dieu qui nous a créés, il sait très bien que nous sommes des enfants qui ont besoin d'être éduqués. Et pour être éduqué, il faut une école. Et la meilleure école qu'il a pu trouver, notre Dieu qui nous aime et qui sait tout, c'est... Justement, et c'est où, Nathalie? Oh bon, l'école c'est là. Dans le désert, c'est exactement ça. Oui, voilà. On préfère le ciel, on préfère l'école du ciel. Mais justement, le ciel c'est pas l'école, c'est le désert qui est l'école. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que si on passe aux deuxième étape, le Seigneur voulait apprendre à son peuple à faire confiance à lui, afin d'avoir la vie sauve. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le texte, mais l'idée c'était d'obéir, de respecter mes commandements, de me faire confiance comme un enfant fait avec son papa, afin de vivre. Et ce qui est quand même frappant, c'est que dans ce texte, Moïse fait référence à un moment très douloureux dans l'histoire du peuple d'Israël. Et je suis sûr que chaque personne qui était présente ce jour-là, quand Moïse présente cette grande... Quelque part, c'est une prédication qu'il fait. Il suffisait de dire deux mots et tout le monde sait exactement de quoi il parle. Un moment très douloureux. Est-ce que quelqu'un se souvient? Vous savez de quel moment il s'agit? Des serpents brûlants, venimeux. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qu'on retrouve, je pense qu'en nombre 22 dans ces eaux-là, 21? Eh bien, le peuple que Dieu guide dans le désert, comme un papa avec ses enfants, il les nourrit, il prend soin d'eux, il les protège, il fournit tout ce qui est nécessaire pour qu'ils continuent à vivre et même à se multiplier, à grandir. Et bien là, qu'est-ce qu'ils font, ce peuple? Ils râlent, comme de bons Français, quoi. J'apprends aussi à le faire. Ils râlent, ils ne sont pas contents. Et ils ont envie de faire quoi, eux? Ben, le désert. Ben justement, c'était mieux en prison. C'était mieux dans l'esclavage. Et ils s'imaginent plein de belles choses dans l'ancienne vie, avant d'être choisis par Dieu pour être son peuple privilégié, son enfant bien-aimé. Ils disaient non, 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 c'était mieux avec les dieux d'Égypte. Ils prenaient mieux soin de nous. Ils avaient envie de retourner. Et là, j'avais en tête juste les souvenirs de longs trajets en voiture avec les enfants. S'il y a quelques parents ici, peut-être vous vous souvenez aussi de vos propres expériences en famille, les longs trajets en voiture. Et ça peut commencer assez rapidement, en fait. Au bout de 30 minutes, 45 minutes, on n'est pas encore là. Et on a tout le nécessaire, hein. On a de quoi manger, on a de quoi boire. S'il faut qu'on s'arrête pour faire pipi, on le fait. Bon, aujourd'hui, franchement, les enfants, vous êtes gâtés parce que vous avez des films et tout ça, quoi, des écrans. Et quand même, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait?
On râle.
On râle. On râle quand même. Bon, dans cette histoire, c'est ce que le papa, notre Dieu, il vit avec ses enfants bien-aimés. On râle, on râle, on râle, on râle. Et c'est grave parce qu'il râle contre un bon Dieu. Et ils se disent, tiens, on préfère retourner à d'autres dieux qui étaient mieux. Et là, pour les éduquer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu les expose aux réalités du désert. Le désert était peuplé déjà de serpents, de scorpions, de plein de bêtes sauvages. Et Dieu donne à ce peuple un aperçu de ce que c'est la vie dans le désert, sans la protection, sans la sécurité, sans la bonté, l'amour, la grâce d'un Père bienveillant. Et il y a des serpents brûlants qui envahissent le peuple, en fait. Et il y a des milliers de personnes qui sont mordues. Mais il est tellement bon que ce papa bienveillant ne nous laisse pas comme ça. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait?
Oui. Bah, il a donné des ordres à son serviteur, quoi. Et il a dit de je sais plus, prendre un bâton avec un serpent en or dessus. Mmh. Et tous ceux qui regardent le bâton, bah, ils seront... Ils seront plus malades.
C'est ça, guéri. Ils auraient la vie sauve. Le peuple crie à Dieu. Le peuple confesse ses péchés. Le peuple reconnaisse leur bêtise, l'orgueil, l'idolâtrie. Et Dieu écoute leurs prières. Il répond. Et il pourvoit un moyen de salut. Un serpent, un symbole de leur souffrance, qui est perché en bronze, est-ce qu'on dit ça en français là ? Poché sur une espèce de perche. Et il suffisait de regarder pour avoir la vie sauve. Un regard suffisait. Ce qui est intéressant, c'est juste avant notre verset, en Jean chapitre 3, c'est à cette histoire-là que Jésus fait référence. Et Nicodème sait immédiatement de quoi il s'agit. Et le sujet de discussion entre eux, c'est: que faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Que faire pour accéder au royaume. Et Jésus, il a déjà dit, bon, il faut naître de nouveau. Il faut une nouvelle naissance. Il faut une nouvelle perspective, une nouvelle vision du monde. Il faut un nouvel esprit. Et on peut se poser la question, mais d'où vient cet esprit? Comment est-ce qu'on peut accéder à cet esprit? Et c'est quand même frappant pour moi. Quand je pense à ce que j'ai vécu avec mon frère il y a des années, j'arrive devant une épreuve, une situation qui était pour moi mais inimaginable. J'aurais jamais imaginé faire un truc pareil. Je le vois faire, et arriver de l'autre côté, et il me dit, Nico, maintenant à toi. Et c'est comme si je prenais un peu de son courage en moi. C'est bizarre un peu de le dire, mais un courage qui n'était pas là il y a quelques instants, était là. J'avais le courage nécessaire. Des jalons. J'ai pas compris. Ah, j'étais, oui, peut-être aussi un peu de jalousie. Ben là, tu creuses dans les profondeurs du cœur de ton pasteur, là. Mais tu as raison. Donc, surtout, je voulais pas que mon frère fasse quelque chose que je ne pouvais pas. Mais c'est clair que sans lui, j'étais incapable de faire cela. Mais en voyant, tout simplement en voyant, une force, une capacité était là que je n'avais pas auparavant. Ça, c'est quand même intéressant. Il suffisait juste de voir. Donc, la question c'est, ok, maintenant, Nouveau Testament, quelle est la situation? Et j'aimerais suggérer le message clé de l'Ancien Testament comme du Nouveau. Et on va creuser ça juste avec le temps qui nous reste. Le message c'est celui-ci, en échange de la joie que je te réserve, c'est Dieu qui nous parle. En échange de la joie que je te réserve, je te demande de supporter pour un peu de temps la souffrance du désert. Il y a une souffrance actuelle à vivre qui prépare le terrain pour une joie qui est réservée pour l'avenir. Donc, croire, c'est quoi? Croire, c'est accepter que, ok, là, on marche dans le désert, jour après jour, on mange de la manne, jour après jour, mais qu'est-ce qui me motive à continuer? Qu'est-ce qui m'aide à progresser? C'est une espérance, c'est cette notion d'une joie qui m'est réservée, une terre promise qui m'attend. Mais il y a un problème pour le peuple d'Israël. Quel est le problème pour le peuple d'Israël? Il n'y avait pas de grand frère ou petit frère. Il n'y a aucun peuple qui a jamais fait ça dans l'histoire du monde. Il n'y avait pas de garantie, on ne savait pas. Est-ce que ce truc marche? Là, on est obligé de faire confiance à, bon, déjà à Moïse qui parle de la part de ce Dieu qui nous fait vraiment peur. Est-ce qu'il tient ses promesses? On ne sait pas. Et il y a beaucoup qui ont perdu d'espoir, qui ont abandonné la route. Et justement, toute une génération est morte dans le désert, sans entrer dans la terre promise. C'est frappant parce que dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, aux Hébreux, en fait, l'écrivain avertit les chrétiens en faisant référence à cette même histoire, en disant, est-ce que vous voyez ce qui s'est passé avec cette génération qui a vu tous les grands signes en Égypte, qui a vu tous les miracles dans le désert, qui a mangé la manne, qui avait des vêtements qui ne sont pas usés pendant 40 ans, qui ont été délivrés des serpents, tout simplement en regardant le serpent sur la perche, qui ont bu l'eau qui est sortie du rocher. Cette génération-là, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle n'est pas entrée dans la terre promise. Elle a abandonné la route. Elle n'a pas cru aux promesses. Donc c'est un avertissement pour nous, nous qui sommes invités à croire qu'en échange d'une joie qui nous est réservée, ce que nous vivons actuellement, cette souffrance actuelle, cette vie dans un désert, dans une école qui est cette terre, ça va produire quelque chose d'extraordinaire par la suite. Mais nous avons un avantage que le peuple d'Israël n'avait pas. Nous avons un frère. Un frère qui est passé devant nous. Et c'est en nous fixant les regards sur lui que j'aimerais justement terminer. En Jean chapitre 15, Jésus lui-même fait le lien entre l'amour, le fait de aimer et de donner. Et il dit ceci. Voici mon commandement. Et ce mot devrait, en fait, faire écho dans nos têtes. Ah, le commandement. Ah oui, ça, c'est quand même hyper important. Parce que ce que Dieu voulait tout simplement, c'est que le peuple respecte ses commandements. Suive ses règles. Et Jésus dit pareil. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est assez simple comme commandement. Sauf que il faut lire verset 13 aussi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. J'aimerais suggérer que au moins une partie de notre soif, c'est pour ce genre d'amour. Moi, j'ai soif d'être aimé comme ça. J'ai un besoin profond d'avoir quelqu'un dans ma vie qui m'aime comme ça. Qui aime au point de se sacrifier, de faire des sacrifices. Et j'imagine que c'est pareil pour vous. Vous avez ce même besoin. Vous avez besoin d'être aimé comme Jésus nous demande d'aimer. Ce qui est intéressant, c'est que le commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Comme ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si aujourd'hui, je suis assoiffé, c'est votre faute. Déresponsabilisation. Je peux le dire dans l'autre sens. Si aujourd'hui, vous êtes assoiffé, c'est peut-être de ma faute. Est-ce que je vous aime comme ça? Est-ce que je suis capable de vous aimer comme ça? Ben, quand j'oublie l'amour de Jésus-Christ exprimé pour moi à la croix, son sacrifice, quand je ne garde pas mes yeux fixés sur son amour, la grandeur de son amour pour moi, l'amour de Dieu qui s'exprime, qui se manifeste dans le sacrifice de son Fils, je regarde ce trou. Et je me dis non, jamais. Je n'arrive pas. Mais comme le serpent dans le désert, quand je vois cet amour de Jésus, cette vision-là d'amour, comme le courage que mon frère m'a donné, ça me donne un désir profond d'aimer comme ça aussi. Et même le sentiment que, avec son amour, je peux aimer comme ça. J'aimerais terminer avec deux fausses croyances et deux vraies croyances. Deux fausses croyances. La vie terrestre devrait être le paradis pour ceux que Dieu aime. Si Dieu nous aime, il devrait répondre à tous mes besoins, à tous mes désirs. Ça devrait être le paradis sur terre. Si Dieu nous aime, pourquoi la souffrance? C'est un peu ça la question. Hein? Et c'est lié, cette question est enracinée dans une fausse vision de la vie terrestre. Parce que la vie terrestre, ce n'est pas le paradis, c'est l'école. Et la meilleure école, les amis, c'est le désert. C'est là où Dieu nous apprend à vivre par la foi en lui. Deuxième fausse croyance. Eh bien, si Dieu ne me donne pas le paradis ici-bas, il faut que je m'en occupe moi-même. Peut-être le problème, c'est juste que Dieu ne tient pas vraiment ses promesses. Ce n'est pas lui qui va me donner le bonheur. Ce n'est pas lui qui pourvoit à mes besoins. Et donc, bon là, voilà, je vais continuer à croire en lui. J'apprécie la vie d'église, ça me va bien, ça me soulage en tout cas quand ça va mal. Mais le vrai boulot, si je veux vivre le paradis sur terre, la responsabilité est sur mes épaules. Et donc, ok Seigneur, je te garde là, je crie à toi quand j'ai vraiment besoin. Mais il faut que je crée mon propre paradis. Et tout en me disant croyant, je vis une certaine autonomie parce que je ne crois pas que Dieu va satisfaire, me rassasier, me donner à boire de l'eau vive. Mauvaise nouvelle, le paradis que je construis pour moi-même ici-bas n'est pas durable. Il est éphémère, il est temporaire, il est périssable. Mais il y a deux vraies croyances que j'aimerais proposer. Dieu conduit ses fils et ses filles avec amour dans le désert. Il ne nous délivre pas forcément du désert. Ce n'est pas qu'on ne sera jamais confronté par des dangers et des difficultés et des souffrances. Ce n'est pas ça la promesse. C'est le Dieu qui est avec nous. Et la présence de Jésus ici dans notre désert, celui qui lui-même a passé les 40 jours dans le désert, ça montre à quel point Dieu est là avec nous dans le désert. Il participe à nos souffrances. Deuxième vraie croyance, donc Dieu nous conduit avec amour dans le désert. Et puis, deuxième, ceux qui font confiance à lui pour leur pain quotidien, ceux qui comptent sur lui, comme un bon papa qui pourvoira ce qui est nécessaire aujourd'hui. Comme il a fait avec son peuple pendant 40 ans dans le désert, des centaines de milliers de personnes nourries, habillées, protégées des dangers. Il est capable de faire ça avec moi. Et quand je compte sur lui, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne la disponibilité d'esprit, ça me donne la disponibilité de temps, ça me donne la disponibilité d'argent, d'aimer mon frère et ma sœur comme Christ m'a aimé en me sacrifiant pour lui, en me sacrifiant pour elle. Je vois son sacrifice, je reçois son esprit et ça me rend capable d'aimer, d'obéir à ses commandements. C'est ça l'essentiel de la vie chrétienne. Bonne nouvelle, cette vie-là, ce qu'on appelle la vie éternelle, est l'éternelle. Et c'est ça la vie que j'ai envie de vivre, moi. Donc, juste une question de réflexion pour terminer ce petit temps. Si je reconnais déjà au moins une partie de ma soif, c'est la soif d'être aimé comme Christ aime. Et si je reconnais que Christ, il a décidé dans sa souveraineté de m'aimer à travers son corps, mes frères et sœurs. Et si je reconnais que si moi j'ai soif de cet amour-là et je fais partie de son corps, ben ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre autour de moi qui a besoin d'être aimé comme ça. La question c'est, qui? La réalité c'est que je ne suis pas Jésus-Christ. Je n'ai pas la capacité de vous aimer tous comme ça tous les jours de ma vie. Et ce n'est justement pas à moi de satisfaire votre soif. Alléluia, merci Seigneur. Non, c'est lui qui satisfait la soif de chaque personne à travers les différents membres du corps qui apprennent à aimer comme lui jour après jour en marchant jour après jour dans le désert. Donc, une question concrète, c'est qui? Moi, je suis convaincu que le Seigneur, il a mis certaines personnes dans ma vie actuellement qui ont particulièrement besoin d'être aimées avec un amour qui me coûte. C'est une autre manière de dire, ces personnes sont parfois difficiles à aimer. Dans certains cas, je pense à plusieurs, personne ici, hein, on est bien d'accord. Dans certains cas, je suis convaincu que je n'arrive pas à bien aimer sans que Christ me donne son amour, qu'il me remplisse de son esprit. Et ma capacité de l'appel de Dieu à aimer ces personnes, c'est quelque chose qui me rappelle jour après jour de ma dépendance sur tous les moments où, face à une opportunité d'aimer, et je me plante, je n'arrive pas. Et plus tard, je fais le bilan. Oh, Seigneur. C'est un rappel que, Nico, je t'éduque, tu es mon enfant, je t'apprends, je te pardonne, j'ai fait tout le nécessaire pour pardonner ton péché. Je reconnais ta faiblesse, mais là, on est dans le désert pour que tu apprennes à aimer comme moi. J'aime, c'est à ça que tu es appelé, c'est ça, la vie éternelle. Qui est cette personne? Qui sont ces personnes pour vous actuellement? Et à quoi ressemble l'amour dans ces relations actuellement pour vous? Donc, j'aimerais juste qu'on s'arrête là, quelques instants dans le silence, qu'on réfléchisse. Et vous pouvez faire plusieurs choses pendant ce petit moment de silence. Déjà, vous pouvez remercier le Seigneur pour cette vérité extraordinaire que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous avons accès à cette vie éternelle aujourd'hui. Et de nouveau, nous avons l'occasion d'accueillir cette vie-là, de nous laisser remplir de cet esprit d'amour qui vient de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Donc, on peut remercier le Seigneur pour ça. Peut-être vous êtes conscient, même ce matin, je peux vous dire qu'avant de me coucher hier soir, les derniers mots qui sont sortis de ma bouche, orientés vers ma femme, n'étaient pas des mots d'amour. J'étais dans la réaction à juste une petite phrase que je n'ai pas appréciée. En fait, les lumières étaient déjà éteintes. On était couchés au lit et je ne pouvais pas m'empêcher juste de laisser un petit dernier mot. J'ai pas aimé ma femme. Donc ce matin, de nouveau, les miséricordes, les grâces qui se renouvellent. Et peut-être vous avez besoin de faire appel à cette grâce aussi, de demander pardon dans une situation où vous étiez confronté par une occasion d'aimer avec l'amour de Christ. Et vous avez raté l'occasion. Votre péché vous a dominé à ce moment-là. Vous pouvez demander pardon. La grâce de Dieu, elle est là. Et puis, juste un dernier point de réflexion, c'est « Seigneur, montre-moi, si je ne vois pas qui est-ce que tu as mis devant moi peut-être, autour de moi, que je peux aimer avec ton amour, un amour dont je ne suis pas capable sans l'œuvre de ton esprit en moi. Ouvre mes yeux et montre-moi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans les jours, peut-être même les heures qui sont devant moi ?»